Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат два раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела аудирования перенесите свои ответы в бланк ответов номер один. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего АФ и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Speaker A.
Moi, j'ai adopté un lapin parce que c'est un animal qui est câlin, qui est drôle, qui est attachant. C'est vraiment un animal gentil qui n'a pas d'aspect dangereux comme d'autres animaux. Je lui ai donné un nom et il le reconnaît à force de l'entendre. Il y a un lien qui s'est créé entre mon lapin et moi. Ce n'est pas comme avec le poisson rouge qui vit sa vie et qui n'a pas vraiment de lien avec son maître. Le lapin, c'est comme le chien ou le chat. C'est un animal doux et affectueux.
Speaker B. Je ne vais pas vous mentir, le lapin, ça fait des dégâts. J'ai un lapin qui s'appelle Gribouille et il a tendance à manger tout ce qu'il voit. Si vous avez un lapin chez vous, il faut équiper votre appartement et le sécuriser au maximum. Si vous avez une télé ou un ordinateur, il faut empêcher l'accès au câble. Il faut penser à tout, à la télé, au câble de l'ordinateur, aux chargeurs de téléphone, parce que les lapins en raffolent. C'est obligatoire pour protéger votre lapin et votre appartement. Speaker C.
J'ai un lapin qui s'appelle Snoop. Il vit en liberté totale pendant la journée et la nuit, je le mets en cage. Donc, la nuit, quand je dors, mon lapin ronge les barreaux de sa cage et ça fait du bruit. Parfois, il passe son temps à gratter dans un coin de la cage. Et ça fait un bruit, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ou il se met à taper dans son biberon ou taper du pied. Et taper du pied dans une cage, je peux vous assurer que ça résonne comme pas possible. Ça pourrait réveiller n'importe qui.
Speaker D.
L'avantage pour moi d'avoir un lapin, c'est qu'il ne mange pas de granulés. Donc, je peux le nourrir seulement de foin et de légumes. Et il y a plein de façons d'avoir des légumes gratuits. Je vais chez le primeur, je lui demande si, par exemple, le soir, je pourrais venir récupérer des légumes qui sont abîmés, qu'il ne peut pas vendre. Et il en a toujours à me donner. Il est super gentil. Et en ce qui concerne le foin, j'achète des bottes. En général, c'est 5 € la botte. Ce n'est pas cher du tout.
Speaker E.
Je ne peux pas adopter de lapin parce que je voyage énormément. Je suis souvent en déplacement pour mon travail. Ce n'est pas une bonne idée d'adopter un lapin parce que je dois m'absenter souvent. Un chat, par exemple, peut rester quelques jours tout seul. Un lapin, non. Ce n'est pas possible déjà par le fait qu'il a besoin d'être nourri 2 fois par jour. Il faut lui changer sa litière 1 jour sur 2, ou 1 à 2 fois par semaine. Et comme je voyage beaucoup, ce n'est pas possible.
Speaker F. La raison pour moi de ne pas adopter un lapin, c'est qu'un lapin est un animal fragile qui demande beaucoup de soins. Beaucoup de personnes pensent qu'un lapin, ça ne va pas chez le vétérinaire. Mais un lapin, c'est comme un chien ou un chat, ça a besoin d'aller chez le vétérinaire. Mon lapin, Choupi, y allait très régulièrement parce que quand il était bébé, il s'est fait mal à la patte, il boitait. Et donc, ça a été des séances chez le vétérinaire, de 30 à 70 euros tous les 15 jours. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois. Speaker A.
Moi, j'ai adopté un lapin parce que c'est un animal qui est câlin, qui est drôle, qui est attachant. C'est vraiment un animal gentil qui n'a pas d'aspect dangereux comme d'autres animaux. Je lui ai donné un nom et il le reconnaît à force de l'entendre. Il y a un lien qui s'est créé entre mon lapin et moi. Ce n'est pas comme avec le poisson rouge qui vit sa vie et qui n'a pas vraiment de lien avec son maître. Le lapin, c'est comme le chien ou le chat. C'est un animal doux et affectueux.
Speaker B. Je ne vais pas vous mentir, le lapin, ça fait des dégâts. J'ai un lapin qui s'appelle Gribouille, et il a tendance à manger tout ce qu'il voit. Si vous avez un lapin chez vous, il faut équiper votre appartement et le sécuriser au maximum. Si vous avez une télé ou un ordinateur, il faut empêcher l'accès aux câbles. Il faut penser à tout, à la télé, aux câbles de l'ordinateur, aux chargeurs de téléphone, parce que les lapins en raffolent. C'est obligatoire pour protéger votre lapin et votre appartement. Speaker C.
J'ai un lapin qui s'appelle Snoop. Il vit en liberté totale pendant la journée et la nuit, je le mets en cage. Donc, la nuit, quand je dors, mon lapin ronge les barreaux de sa cage et ça fait du bruit. Parfois, il passe son temps à gratter dans un coin de la cage. Et ça fait un bruit, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ou il se met à taper dans son biberon ou taper du pied. Et taper du pied dans une cage, je peux vous assurer que ça résonne comme pas possible. Ça pourrait réveiller n'importe qui.
Speaker D.
L'avantage pour moi d'avoir un lapin, c'est qu'il ne mange pas de granulés. Donc, je peux le nourrir seulement de foin et de légumes. Et il y a plein de façons d'avoir des légumes gratuits. Je vais chez le primeur, je lui demande si, par exemple, le soir, je pourrais venir récupérer des légumes qui sont abîmés, qu'il ne peut pas vendre. Et il en a toujours à me donner. Il est super gentil. Et en ce qui concerne le foin, j'achète des bottes. En général, c'est 5 euros la botte. Ce n'est pas cher du tout.
Speaker E.
Je ne peux pas adopter de lapin parce que je voyage énormément. Je suis souvent en déplacement pour mon travail. Ce n'est pas une bonne idée d'adopter un lapin parce que je dois m'absenter souvent. Un chat, par exemple, peut rester quelques jours tout seul. Un lapin, non. Ce n'est pas possible déjà par le fait qu'il a besoin d'être nourri deux fois par jour. Il faut lui changer sa litière un jour sur deux, ou une à deux fois par semaine. Et comme je voyage beaucoup, ce n'est pas possible.
Speaker F. La raison pour moi de ne pas adopter un lapin, c'est qu'un lapin est un animal fragile qui demande beaucoup de soins. Beaucoup de personnes pensent qu'un lapin, ça ne va pas chez le vétérinaire. Mais un lapin, c'est comme un chien ou un chat, ça a besoin d'aller chez le vétérinaire. Mon lapin, Choupi, y allait très régulièrement parce que quand il était bébé, il s'est fait mal à la patte, il boitait. Et donc, ça a été des séances chez le vétérinaire, de 30 à 70 euros tous les 15 jours. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений АЖ соответствуют содержанию текста 1 ВРЭ, какие не соответствуют 2 ФО и о чем в тексте не сказано. То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Aucune information. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Coucou Lily, comment ça va?
Salut Fred, ça va bien? Je me prépare pour un voyage que j'attends depuis très longtemps.
Alors, dis-moi tout, tu vas où?
Je pars en Inde.
Mais tu t'en vas à jamais, Lily?
Non, je pars pour quelque temps, pour environ 2-3 mois. Je n'ai pas encore pris mon billet de retour. J'ai un visa de 3 mois, donc je ne partirai pas au-delà de cette période.
Alors là, on est le 13. Quand est-ce que tu pars exactement?
Je pars samedi prochain, donc le 17. Le 17 septembre, mon avion décolle à 21h de Paris. Et le trajet étant d'environ 8h, j'arriverai là-bas très tôt le matin.
Et qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Inde.
Oui, j'y suis allée en février, mais c'était pour 3 semaines de vacances. J'ai pu découvrir la culture, rencontrer du monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances. Je vais aller là-bas et je vais travailler.
Et pour les préparatifs, qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Inde?
Alors j'ai dû demander un visa, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis j'ai réservé un billet d'avion.
Je vois. Et tu penses prendre des médicaments avec toi?
Oui, j'ai emmagasiné quelques boîtes de médicaments, contre le mal de gorge notamment. Dans mes préparatifs, j'ai aussi eu besoin d'aller en région parisienne récupérer une grande valise que me prête une amie. Parce que je n'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça, sachant qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio à Paris.
Oui, j'imagine.
Fred, je me suis demandé en préparant mes bagages, que convient-il d'emporter de typiquement français quand on voyage à l'étranger?
Moi, je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, je te l'avais déjà raconté, 7 ans en Chine, j'amenais toujours des macarons, du chocolat, même pas forcément français. Du chocolat suisse ou du caramel français. Qu'est-ce que tu as envie d'amener dont tu as peur de manquer en étant en Inde? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger, par exemple? Du fromage?
Alors, pas particulièrement. Je pense que ça va, je pourrais m'en passer. Pour moi, c'est plutôt les cosmétiques que je préfère prendre d'ici que là-bas. Il y a beaucoup moins de choix en termes de maquillage, de shampoing. Je préfère prendre des produits que je connais.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Coucou Lily, comment ça va?
Salut Fred, ça va bien? Je me prépare pour un voyage que j'attends depuis très longtemps.
Alors, dis-moi tout, tu vas où?
Je pars en Inde.
Mais tu t'en vas à jamais, Lily?
Non, je pars pour quelque temps, pour environ 2-3 mois. Je n'ai pas encore pris mon billet de retour. J'ai un visa de 3 mois, donc je ne partirai pas au-delà de cette période.
Alors là, on est le 13. Quand est-ce que tu pars exactement?
Je pars samedi prochain, donc le 17. Le 17 septembre, mon avion décolle à 21h de Paris. Et le trajet étant d'environ 8h, j'arriverai là-bas très tôt le matin.
Et qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Inde.
Oui, j'y suis allée en février, mais c'était pour 3 semaines de vacances. J'ai pu découvrir la culture, rencontrer du monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances. Je vais aller là-bas et je vais travailler.
Et pour les préparatifs, qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Inde?
Alors j'ai dû demander un visa, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis j'ai réservé un billet d'avion.
Je vois. Et tu penses prendre des médicaments avec toi?
Oui, j'ai emmagasiné quelques boîtes de médicaments, contre le mal de gorge notamment. Dans mes préparatifs, j'ai aussi eu besoin d'aller en région parisienne récupérer une grande valise que me prête une amie. Parce que je n'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça, sachant qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio à Paris.
Oui, j'imagine.
Fred, je me suis demandé en préparant mes bagages, que convient-il d'emporter de typiquement français quand on voyage à l'étranger?
Moi, je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, je te l'avais déjà raconté, 7 ans en Chine, j'amenais toujours des macarons, du chocolat, même pas forcément français, du chocolat suisse ou du caramel français. Qu'est-ce que tu as envie d'amener dont tu as peur de manquer en étant en Inde? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger, par exemple? Du fromage?
Alors, pas particulièrement. Je pense que ça va, je pourrais m'en passer. Pour moi, c'est plutôt les cosmétiques que je préfère prendre d'ici que là-bas. Il y a beaucoup moins de choix en termes de maquillage, de shampoing. Je préfère prendre des produits que je connais.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Bonjour Gabriel Abreu.
Bonjour.
Aujourd'hui, consultant pour France Télévisions, c'est votre passé de champion de ski qui nous intrigue. Quand êtes-vous monté sur des skis pour la première fois?
Écoutez, j'habitais en station, donc pour moi c'était facile d'aller au ski. Et moi j'ai commencé à 2 ans et demi, parce que je suis né au mois d'août. Et sinon, généralement, dans les montagnes, chez nous, dans les stations, vers 3 ans, dès qu'on se tient un peu debout, tous les enfants commencent la glisse comme ça.
Vous êtes quasiment né sur des skis?
Oui, dès qu'on sait marcher un peu, après on va skier.
Pourquoi vous aimez le ski?
C'est un sport qui est ludique. C'est un sport de glisse. Et c'est pour ça qu'on s'amuse, parce qu'on a tout de suite des sensations au-delà de la compétition. C'est un sport qui est sympa, parce que le cadre, généralement, est joli. On est en montagne, il y a de la neige.
Je voudrais savoir quels sont vos plus grands titres comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde.
Alors, j'ai gagné la Coupe du Monde au général, c'est-à-dire que j'ai été en 1997 le meilleur dans toutes les disciplines et dans toutes les courses de la Coupe du Monde sur la saison. Donc, ça c'était mon plus gros titre. Et sinon, j'ai gagné des Coupes du Monde de descente. Et puis j'ai aussi reçu des médailles aux championnats du monde, ça c'est un peu différent. Et aux Jeux Olympiques, malheureusement, je crois que j'ai fait toutes les places de 4 à 7. J'ai jamais remporté de médaille, mais je suis pas passé bien loin.
Quelle est la plus grande piste de ski que vous avez faite dans votre carrière?
Alors, il y a des pistes de course, et puis il y a les pistes qu'on a faites pour le plaisir, dans des endroits qui sont vraiment magiques. J'ai fait beaucoup de stations sur les 5 continents, mais en compétition la plus longue, une des plus dures physiquement, c'est à Wengen, en Suisse. Et c'est une descente qui fait 2 minutes 30 où on est à 110 km en moyenne. On peut aller jusqu'à 150 km/h. Donc voilà, ça c'était une des pistes les plus longues et puis une des plus dures.
Quel est votre souvenir le plus fort dans cette carrière, Gabriel Abreu?
C'est ma première victoire en Coupe du Monde. Vous savez, j'ai une carrière qui est remplie de blessures, d'insatisfactions. J'ai participé pendant 14 ans à la Coupe du Monde et finalement, j'ai gagné les 3 dernières saisons, donc j'ai eu beaucoup de blessures, de frustrations. Donc, la première course que je gagne, c'est un de mes meilleurs souvenirs, parce que je gagne à Kitzbühel, qui est la Mecque du ski alpin. C'est une descente en Autriche, et voilà, ça reste un de mes meilleurs souvenirs, parce que j'ai essayé d'atteindre ce but pendant tellement longtemps que ça a été un vrai soulagement ce jour-là.
Vous avez hâte que ça commence, ce championnat du monde ?
Oui, vous savez, maintenant je suis de l'autre côté du décor. J'ai moins cette obligation de réussir. Donc on est moins, j'allais dire, concentré. Ou stressé, en tout cas. Je suis consultant maintenant pour la télé, donc je dois essayer de donner aux gens l'envie de regarder le ski. Et moi, j'ai hâte parce qu'on est en France. Et les championnats du monde, ça fait 14 ans qu'on les a pas eus en France. Depuis Val d'Isère, on en a seulement eu 4 dans l'histoire du ski. Depuis des années, j'allais dire 50. Donc voilà, c'est un gros événement en France. Donc oui, on a hâte que ça commence. L'organisation est juste fantastique ici à Courchevel. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Bonjour Gabriel Abreu.
Bonjour.
Aujourd'hui consultant pour France Télévisions, c'est votre passé de champion de ski qui nous intrigue. Quand êtes-vous monté sur des skis pour la première fois ?
Bah, écoutez, j'habitais en station, donc pour moi c'était facile d'aller au ski. Et moi j'ai commencé à 2 ans et demi, parce que je suis né au mois d'août. Et sinon, généralement, dans les montagnes, chez nous, dans les stations, vers 3 ans, dès qu'on se tient un peu debout, tous les enfants commencent la glisse comme ça.
Vous êtes quasiment né sur des skis ?
Oui, dès qu'on sait marcher un peu, après on va skier.
Pourquoi vous aimez le ski ?
C'est un sport qui est ludique, c'est un sport de glisse. Et c'est pour ça qu'on s'amuse, parce qu'on a tout de suite des sensations au-delà de la compétition. C'est un sport qui est sympa, parce que le cadre, généralement, est joli. On est en montagne, il y a de la neige.
Je voudrais savoir quels sont vos plus grands titres comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde.
Alors, j'ai gagné la Coupe du Monde au général, c'est-à-dire que j'ai été en 1997 le meilleur dans toutes les disciplines et dans toutes les courses de la Coupe du Monde sur la saison. Donc, ça c'était mon plus gros titre. Et sinon, j'ai gagné des Coupes du Monde de descente. Et puis j'ai aussi reçu des médailles aux championnats du monde, ça c'est un peu différent. Et aux Jeux Olympiques, malheureusement, je crois que j'ai fait toutes les places de 4 à 7. J'ai jamais remporté de médaille, mais je suis pas passé bien loin.
Quelle est la plus grande piste de ski que vous avez faite dans votre carrière ?
Alors, il y a des pistes de course, et puis il y a les pistes qu'on a faites pour le plaisir, dans des endroits qui sont vraiment magiques. J'ai fait beaucoup de stations sur les 5 continents, mais en compétition la plus longue, une des plus dures physiquement, c'est à Wengen, en Suisse. Et c'est une descente qui fait 2 minutes 30 où on est à 110 km en moyenne. On peut aller jusqu'à 150 km/h. Donc voilà, ça c'était une des pistes les plus longues et puis une des plus dures.
Quel est votre souvenir le plus fort dans cette carrière, Gabriel Abreu ?
C'est ma première victoire en Coupe du Monde. Vous savez, j'ai une carrière qui est remplie de blessures, d'insatisfactions. J'ai participé pendant 14 ans à la Coupe du Monde et finalement, j'ai gagné les 3 dernières saisons, donc j'ai eu beaucoup de blessures, de frustrations. Donc, la première course que je gagne, c'est un de mes meilleurs souvenirs, parce que je gagne à Kitzbühel, qui est la Mecque du ski alpin. C'est une descente en Autriche, et voilà, ça reste un de mes meilleurs souvenirs, parce que j'ai essayé d'atteindre ce but pendant tellement longtemps que ça a été un vrai soulagement ce jour-là.
Vous avez hâte que ça commence, ce championnat du monde ?
Oui, vous savez, maintenant, je suis de l'autre côté du décor. J'ai moins cette obligation de réussir. Donc, on est moins, j'allais dire, concentré. Ou stressé, en tout cas. Je suis consultant maintenant pour la télé, donc je dois essayer de donner aux gens l'envie de regarder le ski. Et moi, j'ai hâte parce qu'on est en France. Et les championnats du monde, ça fait 14 ans qu'on les a pas eus en France. Depuis Val d'Isère, on en a seulement eu 4 dans l'histoire du ski. Depuis des années, j'allais dire 50. Donc voilà, c'est un gros événement en France. Donc oui, on a hâte que ça commence. L'organisation est juste fantastique ici à Courchevel.
C'est la fin de votre devoir.
Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.